Journal radiophonique amplifié, la notion pourrie avec Arthur.
Bonsoir Rémi, bonsoir Mathilde. Et oui, aujourd'hui on va parler de la suppression de l'ENA et se poser la question si l'ENA, est-ce que c'est une notion pourrie en soi ? Parce que ça a été la tragédie de beaucoup de gens de l'ENS d'apprendre que l'ENA pouvait être supprimée, mais Macron a surtout parlé de supprimer les grands corps. Mais supprimer les grands corps, c'est forcément toucher à la formation de ces grands corps. Et ces grands corps sont souvent formés par les têtes du concours de l'ENA, que ça soit la Cour des comptes, l'inspection des finances ou le Conseil d'État. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Et surtout, en quoi ça va impacter l'ENA ? En fait, déjà, il y aurait beaucoup à dire sur l'ENA, parce que ça touche énormément au mythe méritocratique républicain, mais ça touche aussi à un imaginaire très militaire de la France, où on avait tendance à sélectionner les plus grands généraux dans des grandes écoles. On avait créé l'ENA en 1945 à la fois de telle façon de concurrencer Sciences Po Paris, qui ne recrutait que des élites parisiennes, et aussi concurrencer ce qu'on appelait les ingénieurs sociaux, qui étaient la crème de la crème des hauts fonctionnaires et qui trustaient avec une sorte de physique sociale toutes les grands instituts publics à la manière d'Alfred Sauvy. Mais maintenant, on a en fait qu'un concours externe qui ne fait que piocher les acharnés scolaires, les gens qui sont passés à la fois par les classes préparatoires, Sciences Po, la prépa et un dernier concours qui est particulièrement agaçant et répétitif. Tandis qu'il existe un concours interne où, si on calcule les chances de réussite, un enfant d'ouvrier a environ 4 fois plus de chances de réussir qu'au concours externe. Mais ce concours interne n'est pas assez trusté, n'est pas assez diffusé et surtout il ne permet pas d'accéder au grand corps aussi facilement. Et de fait, il y a une concurrence stricte dans le classement en fin d'année où, résultat, le Conseil d'État, l'inspection des finances et la Cour des comptes ont tendance à être préférés à d'autres endroits qui sont alors pour les moins bien classés du classement, comme l'inspection générale aux affaires sociales. Donc, on parle d'une réforme de l'apprentissage qui serait peut-être nécessaire, et moi je dirais qu'il faudrait peut-être commencer à se poser la question de l'économie à enseigner à l'ENA, mais surtout se poser la question du fait que ça soit gonflant pour les élèves. C'est bien pour ça que ceux-ci veulent voir ce qui se passe dans la vraie vie, quitte à ce que l'on les balance dans des entreprises privées et qu'ils apprennent les habitudes de là-bas. Et en fait, on a voulu, en créant l'ENA, former des généralistes qui ne puissent jamais que rester à un seul ministère et devenir des sortes de bunkers imprenables. Et le seul problème, c'est que on pourrait penser à supprimer l'accès au grand corps, et c'est ce que propose actuellement un chercheur qui a travaillé sur la fabrique de ces énarques pour essayer d'éviter les Rastignacs qui viendraient tout simplement à l'ENA pour pouvoir avoir les plus hautes fonctions politiques. En fait, on commence à se demander si Macron ne rêve pas un petit peu, s'il veut une administration d'entrepreneurs innovants à la Schumpeter, plutôt que d'essayer de former tout simplement des hauts fonctionnaires. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si l'ENA est morte, alors vive l'État. Car plus que la haute école, c'est dans la physique interne de l'État, dans les stratégies d'expansion et de maintien d'une administration, que se trouve actuellement, à mon avis, le problème. Et Macron ne choisit pas de le traiter.
Merci pour ce petit point, Arthur. On passe tout de suite au pied dans le tapis.